Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et voici les enjeux internationaux au sujet de Cuba. L'électricité manque, la famine guette et pourtant les chantiers d'hôtels de luxe s'accumulent au cœur de la Havane afin d'accueillir les touristes. Un décalage qui attise la colère après un week-end de forte mobilisation à Santiago. Dans l'Orient cubain, le calme est revenu sur l'île ces dernières semaines, mais jusqu'à quand? Plus de 4% de la population a émigré en 3 ans face aux difficultés chroniques, alors que les États-Unis imposent un blocus. Comment le gouvernement justifie-t-il ses choix économiques? Le modèle cubain est-il à bout de souffle? Bonjour Laurine Chapon.
Bonjour.
Vous êtes doctorante en géographie au Centre de recherche et de documentation des Amériques. Comment décrire tout d'abord la situation à Cuba? Comment ce pays traverse-t-il la période actuelle?
Oui, merci. Alors, la situation actuelle à Cuba, elle est qualifiée de crise économique. C'est une crise qui a donné lieu notamment aux manifestations qui ont eu lieu récemment le 17 mars à Santiago et Bayamo, des provinces orientales de l'île. C'est des manifestations qu'il convient peut-être de nuancer un peu. On a beaucoup entendu dans la presse, notamment en presse d'opposition située, qui parle depuis les États-Unis, que c'était des manifestations d'une grande ampleur. C'est des manifestations qui ont été assez réduites et d'une échelle assez restreinte à ces provinces. Le cri des manifestants, c'était « Corriente y comida », électricité et nourriture. Et ce slogan résume assez bien les deux préoccupations majeures actuellement de la population cubaine, qui sont celles de l'électricité et de la nourriture.
Mais alors, ça fait longtemps qu'on sait que l'île est plongée dans une crise économique avec beaucoup de denrées qui manquent, avec un pouvoir d'achat extrêmement faible. Les choses ont empiré?
Oui, les choses ont empiré depuis, je dirais, 2020, la pandémie de la Covid-19 et les sanctions états-uniennes qui ont été renforcées par l'administration de Donald Trump. Aujourd'hui, l'inflation est extrêmement élevée à Cuba. Il y a une dévaluation du peso cubain très importante. Aujourd'hui, le peso cubain, un dollar vaut 340 pesos. Il y a 2 ans, un dollar valait 70 pesos. Et il y a aussi des problèmes d'approvisionnement alimentaire, des réductions dans la libreta, donc le ticket de rationnement subventionné par l'État cubain, qui aujourd'hui est de plus en plus faible. Donc il y a concrètement, c'est moins d'œufs, moins de pain par jour pour les personnes, et des prix de la nourriture qui augmentent liés à cette inflation. Et donc ça provoque un mécontentement assez important. L'autre problème, c'est l'électricité. Il y a des coupures de courant régulières dans l'île depuis 2020 aussi. Cette crise de l'électricité, elle s'explique à la fois par des problèmes de maintenance, une crise de la maintenance liée à des manques de matériel, de petites pièces, qui sont à la fois liées à l'embargo et à la fois liées aux problèmes du système productif cubain et à ses dysfonctionnements. Manque de pétrole aussi. Là, hier, le ministère des Mines et des Énergies a annoncé qu'ils allaient recevoir un bateau de 90 000 tonnes de pétrole venant de Moscou, qui montre aussi que le gouvernement essaye de diversifier ses partenariats pour répondre à cette crise.
Ouais, et pour la première fois de son histoire, Cuba a demandé l'aide du Programme alimentaire mondial.
Oui, pareil, très récemment, Cuba a sollicité l'aide du Programme alimentaire mondial pour du lait en poudre destiné aux enfants de moins de 7 ans essentiellement. Et Cuba essaye aussi, le gouvernement essaye de diversifier les ressources pour importer de l'alimentation. Ils ont fait appel à notamment des associations aussi, donc dans un contexte de crise et de tension sur cette alimentation.
Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Cuba sur le plan économique? Est-ce qu'il y a une sorte d'espoir au travers d'un plan économique de développement? Vous faites la moue.
Oui, non, espoir, je ne sais pas. En tout cas, le gouvernement prend des mesures actuellement de relance dans un contexte aussi de libéralisation croissante de l'économie. Vous parliez du tourisme en introduction. Le gouvernement a réamorcé ce secteur qui est stratégique pour l'île et qui est un des secteurs qui apporte le plus de devises.
Et aujourd'hui, il y a beaucoup de touristes à Cuba?
Oui, le tourisme a repris. Le tourisme était assez important avant la pandémie et l'élection de Donald Trump. Cuba, comme était placé sur la liste des États soutenant le terrorisme, ce qui a mis un coup d'arrêt. Mais là, actuellement, le tourisme reprend à la fois...
Des touristes de quelle
Oui, alors à la fois des touristes européens, beaucoup de touristes états-uniens actuellement qui voyagent de manière isolée aussi.
Et ça, ils ont la possibilité de le faire. Les Américains peuvent venir en vacances à Cuba.
Oui, tout à fait. Et ils viennent plutôt de manière individuelle dans des logements chez l'habitant au motif du soutien au peuple cubain, parce qu'ils doivent toujours justifier quand même d'un motif qui n'est pas celui de touriste. Et puis aussi beaucoup de Russes dans les systèmes hôteliers étatiques. Donc là, du tourisme plutôt organisation de masse.
Mais il y a des liaisons aériennes quotidiennes, oui, en tout cas régulières avec les États-Unis, avec tous ces pays ?
Oui, bien sûr, il y a des liaisons régulières avec Miami, avec la Floride. Actuellement, donc, vous le disiez, 5% de la population de l'île aurait émigré depuis 2022, mais ce qui implique aussi du coup des liens très forts avec les États-Unis. Il y a beaucoup de Cubains qui vivent aux États-Unis et donc la diaspora cubano-américaine est aussi très en lien avec Cuba. Ils ont la possibilité de revenir. Et donc oui, il y a des voyages réguliers, ce qui sont d'ailleurs une source d'approvisionnement essentielle pour l'île parce que beaucoup de commerce se passe à la valise depuis Miami. Et donc il y a des vols quotidiens pour Miami et la Floride.
Et c'est plutôt un tourisme de luxe ?
Oui et non. Alors, il y a le gouvernement cubain essaye de monter en gamme. C'est une des stratégies aussi de récupération de ce secteur touristique.
Oui, j'avais cru comprendre que c'était un tourisme onéreux.
Oui, c'est un tourisme onéreux parce que c'est relativement cher, mais on n'a pas non plus c'est pas le luxe de la République dominicaine voisine, par exemple, ou les créneaux touristiques de la Caraïbe, mais il y a une tentative de monter en gamme de ce secteur, et il y a vraiment deux réseaux touristiques parallèles, à la fois le tourisme indépendant privé de personnes qui vont en chambre chez l'habitant, et puis le tourisme en système hôtelier géré par l'État, sous forme de joint venture avec des entreprises étrangères, donc c'est 51% de capital cubain et 49% de capital étrangers. Et donc là, c'est des gros hôtels, des chaînes hôtelières espagnoles, indiennes, indonésiennes. Enfin, il y a une diversification aussi des partout.
Oui, parce que l'initiative privée seule ne peut pas aujourd'hui développer, par exemple, un hôtel à Cuba.
Si, alors de plus en plus, et ça c'est une des nouveautés aussi et des transformations très récentes du paysage socio-économique de l'île. En septembre 2021, le gouvernement a autorisé ce qu'ils appellent les MIPIMES, c'est les entreprises privées qui peuvent aller jusqu'à 100 salariés. Et dans certains secteurs, et un des secteurs principaux de ces MIPIMES, c'est justement la restauration et l'hébergement. Et donc, il y a un boom de ces entreprises privées destinées notamment à l'offre touristique. Aujourd'hui, le paysage socio-économique de La Havane, il est considérablement transformé. On a aussi le développement du petit commerce de détail parce que ces entreprises ont le droit d'importer maintenant. Mmh. Ça veut dire qu'il y a énormément de produits importés. Les bières d'importation coûtent moins cher aujourd'hui que les bières nationales cubaines à La Havane.
Comment cela se fait-il ?
Et justement, avec cet essor des MIPIMES et l'autorisation pour ces entreprises d'importer, elles peuvent importer à bas coût. Et donc, une bière chinoise ou européenne coûte moins cher aujourd'hui à La Havane. Et ces transformations, elles sont surtout visibles dans les espaces centraux de la capitale ou dans les grandes villes. Mais on verra ce qui se passe. Mais c'est des transformations socio-économiques majeures. On trouve de tout aujourd'hui à La Havane, presque de tout. Ce qui n'était pas du tout le cas il y a un an. À des prix prohibitifs et inaccessibles à la majorité des Cubains, notamment ceux qui n'ont pas accès à des devises internationales, ce qui du coup génère aussi
de la colère
et du mécontentement sur des choix économiques qui ne sont pas non plus forcément toujours compris par la population. Donc là, le gouvernement est aussi dans une rhétorique d'explication, beaucoup de ces réformes. Mais typiquement sur le tourisme, les gens ne comprennent pas. L'opinion publique, la presse d'opposition dénoncent les investissements qui sont conduits dans les grands hôtels et dans ce secteur touristique. Selon un économiste, Pedro Monreal, la Cubain, le gouvernement réinvestit plus de 11 fois plus dans le tourisme que dans le secteur agricole. Ce qui du coup génère aussi du mécontentement. Ouais.
Est-ce qu'il y a des investissements dans d'autres secteurs ? Est-ce que Cuba a un embryon de secteur industriel ? Est-ce que Cuba peut produire des choses ? Bon, sachant que l'embargo, bien sûr, limite les exportations, Laurine Chapon.
Oui, alors là, je ne suis pas complètement spécialiste plutôt du tourisme. Je pense qu'un des secteurs principaux que le gouvernement essaye de récupérer, là, c'est le tourisme et le développement de ces petites entreprises privées qui, elles, construisent. Enfin, moi, je travaille sur le secteur du logement et, par exemple, le gouvernement incite grandement à la production locale de matériaux de construction dans un secteur du ciment qui est complètement... qui fonctionne comme l'électricité, qui est en crise totale. Et donc, il y a une incitation, en tout cas, à la petite privatisation d'acteurs économiques privés de petite taille.
Et politiquement, comment les choses se déroulent-elles ? Est-ce que les Cubains sont désillusionnés ? Est-ce qu'il en reste
oui.
Hoché de la tête ?
Oui, politiquement, les En tout cas, dans ce qui transparaît des conversations et de l'opinion publique, les personnes sont assez désillusionnées. Pas toutes non plus, et c'est aussi peut-être un peu ce qu'on peut entendre. Enfin, les relais de la presse d'opposition, notamment, qui montrent que toute l'île serait désillusionnée. Oui, une grande partie des personnes sont désillusionnées. Il y a toujours des gens qui soutiennent la révolution. C'est des gens aussi qui sont plutôt bien intégrés au système et qui en ont bénéficié, ou alors les générations plus anciennes. Il y a aussi une question générationnelle à Cuba, de vieillissement important de la population, et des personnes plus âgées qui soutiennent toujours parce qu'elles ont bénéficié du système redistributif révolutionnaire qui actuellement ne fonctionne plus, ou en tout cas pas assez. Et donc c'est pour ça aussi que la crise migratoire actuelle que traverse l'île, elle concerne et touche surtout les jeunes qui partent massivement.
Et en conclusion, quelle est l'image du castrisme de Castro, des deux frères d'ailleurs?
Oui, alors l'image du castrisme, elle reste assez peu inchangée, en tout cas dans l'opinion publique et de ce que j'ai pu observer. Fidel Castro reste une figure de référence pour les personnes et la révolution cubaine, et il est assez peu critiqué d'ailleurs. Là, les critiques, elles se concentrent sur le gouvernement actuel, donc on ne parle pas de la famille Castro, mais en revanche, le président actuel et le gouvernement actuel, et les mesures qui sont prises sont assez mal comprises et assez critiquées par la population. De manière assez libre aussi, dans un contexte de libération de la parole progressif.
Merci beaucoup, Laurine Chapon. Je rappelle que vous êtes doctorante en géographie au Centre de recherche et de documentation des Amériques, le CREDA, et à la Sorbonne Nouvelle. Dans quelques secondes, un changement important sur l'antenne de France Culture. Nous avons décidé de remplacer la rubrique science par un horoscope qui sera, rassurez-vous, tenu par Alexandra Delbo avec Étienne Klein, qui viendront donc tous les jours nous expliquer quel sera notre futur.